Ok, c'est bon.
Ok. Alors, deuxième question. Y a-t-il beaucoup de charlatans et comment sont-ils identifiés ou démis de leur fonction? Alors oui, il y a énormément de charlatans, et notamment dans les pays européens. Ok, alors excusez-moi, j'ai été déconnecté. Alors oui, donc ce que je dis, c'est qu'il y a énormément de charlatans, et notamment dans les pays européens, c'est à peu près la même chose que pour les marabouts, etc. Pourquoi? Parce que dans les pays européens, il n'y a pas de manière de vérifier, ce qui est totalement normal, hein, il n'y a pas de vérification certaine, etc. Dans les pays musulmans, par contre, il y a des spécialistes, il y a des gens qui ont fait des études, notamment à l'université de Médine ou l'université de la Mecque, et typiquement aux Émirats, par exemple, on a le ministère des Affaires religieuses qui donne des certifications aux gens qui sont capables de le faire et qui sont capables d'interpréter les rêves. Et ils doivent être, ils doivent pouvoir nous prouver justement leur religion en pouvant répondre à certaines de nos questions, typiquement à pouvoir nous citer des exemples coraniques, etc. Alors, pas clair, en Europe, compliqué, dans les pays occidentaux, c'est compliqué, il y a beaucoup de charlatans. Dans les pays musulmans, c'est un peu plus simple, même s'il y a aussi beaucoup de charlatans parfois. Il faut essayer de, en tout cas dans les pays musulmans, d'aller chez quelqu'un qui est certifié par le ministère des Affaires religieuses, comme c'est le cas aux Émirats. Y a-t-il eu des exemples de conséquences graves de misinterprétation de rêves? Je n'en connais pas forcément. Franchement, je ne connais pas forcément. Par contre, je pourrais supposer qu'il existe un exemple typiquement de quelqu'un qui a rêvé de sa femme ou de quelque chose du genre, et qui s'est dit au final que oui, sa femme va la tromper ou quelque chose comme ça, et qui a demandé le divorce. Dans ce cas-là. Et comment ça s'appelle? Dans ça peut être un exemple de misinterprétation des rêves. Donc, oui, je connais pas forcément d'exemple, mais c'est une supposition. Alors, mistake ou mistake, je vais répondre à ta question, je réponds juste à Dédé, parce que c'est assez facile à répondre. Dédé, par les 46 branches prophétiques, c'est un mec que tu ne trouves pas beaucoup sur le net, parce qu'en en réalité, ça s'appelle pas comme ça, c'est plus l'eschatologie, donc l'étude de la fin du monde. Et ce sont les signes majeurs et les signes mineurs de la fin du monde, dont une grande majorité qui nous ont été descendus, mais pas tous. Donc tu peux chercher sans fait signes majeurs et signes mineurs de la fin du monde, et c'est ce qui correspond en fait aux 46 branches de la prophétie. En tout cas dans l'islam, parce que je sais que dans d'autres contextes, ça a des significations différentes. Alors, est-ce qu'il y a des gens passés? Alors, Gizmo, je vais te répondre, je réponds juste à Mistake juste avant. Qu'en est-il des rêves ou qu'en est-il des non-rêves ou des rêves qu'on ne se souvient pas? Alors, 2 secondes, parce que ça, je l'avais pris en note, je connais pas exactement, j'avais pris en note dans mon dictionnaire, j'ai juste besoin de reprendre mes notes. Parce qu'il y a une explication à cela, il faut juste que je réouvre, si jamais ça marche, mon dictionnaire de 526 pages. Les prophètes Daniel en avait parlé, justement du fait d'oublier ses rêves. Alors, je vais essayer de retrouver le texte exact, laissez-moi quelques minutes, et en attendant que ça charge, je vais répondre à Gizmo. Mistake, je ne t'ai pas oublié. Je vais te répondre. Je vais juste répondre à Gizmo en attendant que mon truc charge. Peut-on mourir dans un rêve et est-ce qu'il y a eu des gens dans le passé qui ont outrepassé? Okay. Non, Gizmo, on ne peut pas mourir dans un rêve. On peut se voir sur le fait en fait de mourir dans un. On peut se voir sur le bord de la mort. On peut se voir presque en train de mourir dans un rêve. On ne va pas se voir mourir parce qu'on dit que notre cerveau n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et du coup, en fait, quand tu meurs, et ben, tu vas te réveiller juste après. Alors, Melk a une question. Melk, je te laisse répondre à ta question. Enfin, je te laisse poser ta question en attendant.
Ouais, ok, ça marche. Déjà, merci beaucoup pour l'exposé, c'est vachement intéressant. Je me demandais au niveau des interprétations ou de
Pardon.
certaines symboliques.
Melk, j'ai été déconnecté. Est-ce que tu peux juste répéter ta question? J'ai été déconnecté.
Ah, d'accord, pas de souci. Bah, le début, je te remerciais pour ton exposé, c'est très intéressant, merci d'avoir fait tout ce
De
travail.
soucis.
Et je te demandais au niveau des interprétations ou des symboliques, comment ça se passe, par exemple, mettons que la couleur du deuil en Occident c'est plutôt le noir, en Asie il arrive que ce soit le blanc, tu vois ce genre de différences symboliques et culturelles. Comment du coup elles sont traitées suivant les interprétations du rêve? Est-ce que pour le coup dans l'islam la personne qui veut interpréter devra prendre connaissance d'autres cultures ou d'autres symboliques, du coup, qui sont peut-être pas forcément générales à chaque fois.
C'est obligatoire. Je l'ai précisé juste avant, l'interprète des rêves doit absolument connaître les cultures. En fait, c'est ce que j'ai précisé, vous savez, quand j'ai dit que la terre change, en fait, que la terre change parce que ça dépend de l'eau de laquelle on l'a arrosée. Et donc, d'un territoire à un autre, ça peut changer. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, dans le Coran, on a certaines couleurs, enfin, typiquement pour les couleurs, on a certaines couleurs qui sont déjà explicitement dites. Et que, supposons par exemple que le vert soit la couleur de la pureté dans le Coran. Supposons maintenant que dans une société occidentale, la couleur de la pureté soit le blanc. Et bien, dans ce cas-là, à chaque fois qu'on va parler du blanc, on va faire comme si on parlait du vert. On va essayer d'avoir la même interprétation comme si on parlait du vert dans le Coran. C'est comme ça qu'on fait généralement. On va essayer de convertir en quelque sorte la culture et de l'associer au Coran. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais oui, en tout cas, c'est obligatoire. Il faut absolument que l'interprète ait une connaissance spécifique des cultures différentes. Alors, je vais retrouver Daniel. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question en attendant ? Je suis désolé, là je parle pas beaucoup, je retrouve juste l'endroit où j'avais écrit. Ah voilà. Donc, Mistake, pour répondre à ta question sur les rêves qu'on oublie. Le prophète Daniel a un jour dit qu'un tel peut oublier son rêve pour quatre raisons. D'abord, ses péchés. Deuxièmement, la contradiction entre ses actions et ses intentions. Troisièmement, le manque de sincérité. Et quatrièmement, le changement de spiritualité. Changement de spiritualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est passé d'une doctrine spirituelle à une autre doctrine spirituelle, donc celle par exemple d'un certain stoïcisme à stresser partout, ne plus avoir spécifiquement de cadre dans sa vie, etc. etc. Alors, il y a un imam qui s'appelle Jafar el-Sadiq qui avait dit si un tel oublie son rêve qu'il a vu la nuit, il doit calculer, attention c'est difficile, la valeur numérique des lettres de son prénom sur la base Jissem Abjad. Alors, franchement, c'est quelque chose que la majorité des interprètes réfutent, parce qu'on s'intéresse plus, là on rentre dans le domaine de la numérologie, et donc on rentre dans le domaine de l'imperfection, de quelque chose qui n'est pas forcément certain. Et bon, ça peut en intéresser certains si vous croyez à l'astrologie et à tout ce qui tourne autour des pseudosciences. Mais c'est une interprétation qui n'est pas beaucoup utilisée et on la réfute souvent, cette interprétation-là. Alors, Mistake, c'est un personnage de Lego Ninjago, c'est pour ça que je t'appelle comme ça. Mais du coup, pour répondre à ta question en cours, on peut oublier ses rêves pour quatre raisons spécifiques selon le prophète Daniel. D'abord, ses péchés, la contradiction entre ses actions et ses intentions, le manque de sincérité et le changement de spiritualité. Alors, petite précision par contre par rapport à l'oubli des rêves, l'interprète doit demander à la personne qui oublie ses rêves comment est-ce qu'il s'est retrouvé lorsqu'il s'est réveillé. Si cette personne oublie ses rêves par exemple avec ses mains au-dessus de ses doigts, peut-être qu'il a vu des arbres. Si jamais il voit par contre ses mains au niveau de ses côtes, peut-être qu'il a vu une femme, par exemple. Alors, il y a des raisons derrière. Pour la femme, je ne sais pas trop quelle est la raison derrière. Par contre, pour les mains, on dit parce que en gros, on a les doigts en dessous de la main. Donc, bon, je ne peux pas activer la caméra pour vous montrer. Mais essayez de mettre votre main en forme de C et ensuite de la mettre sur une forme plate. Vos doigts vont pointer vers le sol. Et en fait, ça représente typiquement le tronc d'un arbre. Et le reste de votre main représente la vie, parce que c'est votre corps, et du coup c'est les feuilles, et les feuilles c'est ce qui donne la vie, etc. etc. Alors je suis en train de lire les remarques. Alors, Gizmo, je ne sais pas si ça reste dans le même sujet que la réaction du corps humain, mais à ce que j'ai cru entendre, si tu chutes d'un toit, tu ne meurs pas de ta chute, mais d'une crise cardiaque avant de toucher le sol. Alors forcément, je ne connais pas. Peut-être que c'est le cas, mais je vais pas essayer de rentrer à l'intérieur parce que je connais pas forcément, donc je vais pas essayer d'interpréter cela, mais ouais. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question ou si quelqu'un éventuellement veut donner un mot auquel je pourrais lire la définition du dictionnaire des rêves par rapport à ce mot-là. Melk a une question.
Oui, est-ce qu'il y a des préconisations au niveau de la croyance pour le coup de l'islam qui, je sais pas, ou pour orienter ou pour favoriser des rêves, est-ce qu'il est préconisé d'avoir des incidences dessus ou faire des choses avant de dormir tu vois un peu là.
Alors avant de dormir déjà, on a tout ce qui est des doigts. Donc les doigts en fait ce sont des invocations que vous allez faire. Alors il y en a plusieurs en fait, elles sont réunies justement dans plusieurs livres de hadith, donc ce que les prophètes, les actions et les dires du prophète, et c'est justement ça qu'on répète. J'en ai un à côté de moi, je pourrais essayer de le retrouver quelque part, je pourrais essayer de vous sortir quelques doigts avant de dormir. Il est aussi préconisé qu'il faut absolument bien dormir et qu'il faut faire les ablutions avant de dormir. Faire les ablutions, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre sa douche avant de dormir. Pourquoi? Pour déjà se sentir bien dans sa peau en prenant sa douche, mais aussi pour essayer de se laver de toute impureté qui peut nous déranger, et aussi parce que les mauvaises odeurs dans votre chambre pourront vous amener à avoir de mauvaises réflexions. Vous savez, quand j'ai pas une grande sensibilité, si votre chambre sent mauvais, vous pouvez être amené à faire des rêves qui sont plus ou moins négatifs. D'où le fait qu'il faut surtout le matin aérer sa chambre pour que les odeurs partent et avant de dormir aussi, par exemple. Donc, ces quelques préconisations, religieusement, les préconisations à faire, c'est quoi? C'est faire sa prière, faire ses ablutions, faire des invocations. Bien évidemment, quand on dort, on remercie Dieu. Pourquoi? Parce que y a des gens qui n'ont pas cette chance justement de pouvoir dormir parce que soit ils sont dans une période de guerre, soit ils n'ont pas à manger, du coup ils n'arrivent pas à dormir, c'est compliqué pour eux. Et après, plus généralement, en tout cas selon le prophète, il faut bien manger, bien boire. Manger varié, ça c'est important. Et, alors, notamment des olives, des dattes et des concombres. Alors, c'est ce que le prophète faisait avant de dormir. Du coup, ouais. Non, par mistake, par sensibilité, je parle de la capacité à en fait, nos sens, en fait. Je parle pas forcément de est-ce que je tombe, est-ce que je suis vexé rapidement, quelque chose comme ça. Je parle du sens, est-ce que j'arrive à bien sentir les odeurs? Est-ce que quand je touche quelque chose, par exemple, et que j'ai les yeux fermés, j'arrive à déterminer qu'est-ce que cette chose? Voilà quoi, je parle de ce type de sensibilité-là, je parle des sens, en fait. Je fais référence aux sens. La vision, l'odorat, etc., etc. Hakuan, est-ce que les expériences de mort imminente sont considérées comme des rêves? Oui, elles sont considérées comme des rêves. Par contre, elles sont considérées comme des rêves pour la plupart des rêves de jour, mais ce sont pas des rêves ni par Dieu ni par Satan, ce sont des rêves personnels. Mais oui, elles sont considérées comme des rêves.
J'ai une question aussi, j'en profite pour la poser. Qu'en est-il du somnambulisme? Est-ce qu'il y a un regard dessus?
Alors je t'avoue que sur le somnambulisme, il n'y a pas forcément de regard dessus. Par contre, éventuellement, ce que je pourrais te dire, c'est le fait que parler pendant ses rêves, ça peut souvent être un signe de stress. Par contre, pour le somnambulisme, malheureusement, en tout cas désolé, Mistake, parce que je souhaite question, mais je n'ai pas forcément de réponse parce que, il n'y a pas forcément de choses par rapport à ça. Certains interprètes. Interprète le somnambulisme comme étant un signe du jugement dernier où tout le monde va se réveiller justement de ses tombes, même si c'est une interprétation qui est plus ésotérique, qu'on va plus retrouver dans le soufisme et pas dans les branches, on va dire, entre guillemets, majeures de l'islam, le sunnisme et le chiisme.
Ok, et tu parlais de parler en dormant, il y a beaucoup de personnes des fois qui parlent dans leur sommeil. Ça, tu disais que c'était considéré comme plutôt un signe de stress.
Généralement, oui, c'est considéré comme un signe de stress. Alors, pourquoi? Parce que en gros, c'est qu'on a beaucoup de choses qui viennent dans nos pensées en même temps. C'est une manière, en tout cas, de faire le vide dans ses pensées, c'est de dire avec sa bouche. Vous savez, parfois, on a besoin de cette nécessité de dire les choses. On pense à beaucoup de choses, mais on ne dit pas forcément tout, et ça nous fait plaisir de tout dire d'un coup. Soit ça nous vide les pensées, ça nous vide la tête. Et généralement, on considère que c'est du stress.
Et Ah, pardon, il y avait une question de Prali peut-être avant moi.
Alors, ça veut dire que la sensibilité des sens est plus grande. Par exemple, l'odeur, on est vite gêné ou par le bruit. Alors, Prali, j'ai pas forcément compris ta question. Est-ce que tu peux reformuler la question?
Ah non, je crois qu'elle demandait la définition à Mistake de l'hyperesthésie. Autant pour moi. Bon, je pose vite fait ma question du
Ok.
coup. Au niveau de la temporalité, moi j'ai eu l'impression des fois d'expérimenter le fait que, je sais pas, je dormais, je me réveillais, je me rendu compte que j'avais dormi 5 minutes alors que j'ai fait un rêve qui m'avait paru durer des heures. Ce rapport au temps, des choses en sont dites?
Le rapport au temps, en fait, c'est quelque chose qui est très très compliqué dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu n'a pas cette notion du temps, en fait. Pas dans le sens où il ne la comprend pas, mais dans le sens où il vit dans un autre espace temporel différent et que nos minutes à nous, nos secondes à nous sont différentes. Je vais vous donner un exemple. On parle souvent des djinns, par exemple. Donc, ce sont les esprits qui sont... Ah, ok.
Ah bah si, on t'entend.
Ah,
Zach.
parce que Twiz m'a dit qu'on ne m'entendait plus.
Moi je t'entends, les autres.
Ouais.
J'entends aussi.
Ok. Bon, alors du coup, je reprends l'exemple du djinn. Typiquement, les djinns ont considéré qu'ils pouvaient aller à la vitesse de la lumière et que du coup, ils avaient une notion du temps qui était différente et une notion de la masse qui était différente. Et on considère que les rêves correspondent à l'univers des djinns, justement, parce que les djinns, on les considère comment? On les considère comme étant dans un état, dans un univers parallèle. Donc un univers parallèle mais superposé au nôtre. Typiquement, dans l'islam, on dit qu'il peut y avoir des djinns là actuellement à côté de vous, mais dans un univers parallèle, et on considère que les rêves font partie de cet univers-là. Et dans cet univers-là, la notion de l'espace-temps est différente que dans notre univers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut avoir l'impression que notre rêve a duré des années et des années alors qu'on a dormi 5 minutes, ou bien le contraire, que notre rêve a duré 5 minutes alors qu'on a dormi pendant 14 heures. Gizmo, tu as dit durant ton discours qu'il ne faut pas parler de ces mauvais rêves aux autres. Pourtant, on se souvient des mauvaises choses de notre passé pour ne pas les reproduire. Alors pourquoi ne pas en parler pour qu'il ne se passe pas les mêmes erreurs et il ne faut pas les avertir? Alors, non, en fait, c'est pas une question d'avertissement, c'est plus une question du fait que des mauvais rêves, comme j'ai expliqué, ils viennent de Satan. Et s'ils viennent de Satan, c'est que généralement, ça veut dire qu'ils représentent tes péchés à toi et qu'il ne faut pas dire tes péchés aux autres. Sauf dans un cas, bien évidemment, de leur expliquer, oui, ne faites pas comme moi. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on fait des cauchemars, par exemple, on a souvent du mal à avoir du recul dessus, on a souvent du mal à les interpréter. C'est un peu plus compliqué de les interpréter. Et donc, en le disant aux autres, il y a souvent une mauvaise interprétation de la chose. Ça répond aussi à la question de Mistake, enfin non, c'est la question de Linvi, je crois, qui parlait justement de ce qu'il y a des exemples de mise interprétation des rêves. Il y en a plus dans les rêves négatifs que dans les rêves positifs. On dit qu'il ne faut pas exprimer ces rêves négatifs parce que c'est des rêves qui font référence à nos péchés. Il ne faut pas dire nos péchés aux gens. Pourquoi? Parce que il y a une possibilité que ces gens-là les reproduisent après. Shunzu, question.
Si on arrive à voler dans un rêve, par exemple, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est vu? Je sais que pour certaines cultures, le fait de réussir à voler dans son rêve, veut dire quelque chose. Est-ce qu'il en est de même pour l'islam?
Alors, l'interprétation générale qu'on a quand on parle de voler dans un rêve, c'est une ascension sociale. L'ascension sociale qui peut aussi être représentée par monter dans un bateau et à l'opposé descendre d'un bateau. Être en train de voler dans un rêve, ça peut considérer être dans une ascension sociale ou bien être amoureux de quelqu'un. Pourquoi? Parce que on a l'impression d'être libre quand on est amoureux, on a l'impression de pouvoir tout faire. Je sais qu'il y avait un exemple bien précis. Oui, voilà. Donc, ce que j'ai précisé dans l'interprétation par corrélation et l'interprétation par l'approximation, je vous l'avais dit, l'interprétation de voler avec des ailes, ça peut dire être en train de travailler, pardon, être en train de voyager, ou bien être en train de. Oui, donc, voilà. Donc, ça, c'est la manière occidentale de Gizmo. Donc, être en train de voyager, ou bien être en train d'avoir une ascension sociale. Et ça, c'est écrit à la place. Alors, c'est. Je vais vous dire. Alors, ça, c'est à la page 45 du dictionnaire des rêves, au mot air, et il y a aussi le mot flying. Donc, après, on parle aussi de l'avion, etc., etc., etc. Alors, Gizmo, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si tu veux que je reprécise encore une fois. Pardon, c'était Shunzu. Si tu veux que je réexplique encore une fois.
Non, non, mais du coup, c'est les deux seules options, c'est-à-dire quelqu'un qui rêve, c'est les deux seules
Non,
alternatives.
ce n'est pas les deux seules options. Il y en a plusieurs des options. Je pourrais éventuellement toutes les citer. Enfin, toutes les citer. Il y en a une infinité. Hein, je l'ai précisé au début du truc. Il y a une infinité d'horizons en fait, de pensées possibles. Mais généralement, comment on le considère, c'est soit une ascension sociale, soit une envie de voyager, hein, en fait. Et il y a une infinité d'interprétations possibles. Après, ça dépend aussi. Est-ce que tu voles, par exemple, avec des ailes? Est-ce que tu voles dans un avion? Enfin, il y a plusieurs changements. Typiquement, voler avec des ailes, ce serait plus ascension sociale. Alors que voler dans un avion, ce serait plus voyager, par exemple. Mais encore une fois, il y a une infinité d'interprétations. Mais là, ce que je t'ai donné, ce sont les deux interprétations les plus connues. En tout
Et
cas,
est-ce que
selon
ça vous
le.
fait du mal, pardon, pardon pour ceux qui ont posé des questions, mais comme j'ai la parole, j'en profite très rapidement. Ceux qui font du mal, si tu fais du mal à quelqu'un dans un rêve, est-ce que tu dois venir t'excuser en réel aussi ou pas? Là, en fait, je fais le parallèle avec d'autres choses que j'ai entendues dans d'autres cultures et voir si effectivement il y a des points communs.
Alors non, tu ne dois pas t'excuser dans tes rêves. Pourquoi? Parce que tu n'es pas
Non, en
responsable de tes
réel.
rêves.
Ah,
Pardon,
d'accord, ok.
oui, tu dois pas t'excuser en réel, je me suis trompé. Tu dois pas t'excuser dans tes rêves, en réel parce que tu n'es pas responsable de tes rêves.
Ok, ça marche.
Alors, l'ours, existe-t-il des personnes qui ne rêvent pas? Si oui, que dit-on de cette personne? Alors, dans l'islam, on considère que la majorité des personnes rêvent. Et en fait, la sensation de ne pas rêver, c'est surtout d'oublier ses rêves très rapidement, en fait. C'est pas des gens qui ne rêvent pas, c'est des gens qui les oublient très rapidement. Alors, je vois qu'il y a Black Jason qui a répondu les aveugles. Les aveugles rêvent aussi, mais ils rêvent différemment de nous. Et c'est plus compliqué d'ailleurs de faire des interprétations de rêves pour les aveugles, parce que on s'intéresse surtout au sens généralement. Et c'est vrai que pour les aveugles, c'est extrêmement compliqué. Et c'était pas quelque chose, je vous dis honnêtement, c'était pas quelque chose qui était. Souvent fait à l'époque, en tout cas islamique, vers les années 750, vers les années 650, et donc je ne pourrais pas forcément vous répondre vis-à-vis des aveugles. Mais sinon, l'ours, pour répondre à ta question, on dit que tout le monde rêve, mais que pas tout le monde se rappelle de ses rêves, et voilà. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question?
Oui, moi, tiens, j'en profite comme personne prend la parole. Quelle serait la signification dans ton dictionnaire de grandes maisons en termes d'étages, qui soient très hautes, pas forcément un immeuble, mais le fait qu'il y ait plusieurs étages, qu'elles soient très très haut perché?
Alors, je vais envoyer ça, mais juste avant, Shunzu, je vais envoyer sur le chat la définition de voler. Sur les dictionnaires, alors vous verrez que c'est une grande définition. Parfois, il y a quelques mots, bon, je vais avoir le temps de corriger ça une seconde, parce qu'il y a quelques mots qui sont collés, parce que je l'ai en PDF et ça bug un peu souvent, parce que c'est un ancien PDF. Le texte de base est en arabe, bien évidemment, mais là, il a été traduit en anglais plusieurs fois. Je pense qu'il y a aussi une version en français qui a été traduite. Alors, 2 secondes, je finis. Alors, message trop long, il faut que je supprime quelques caractères. Shunzu, ça c'est une seule partie du mot rêver, enfin du mot voler, hein, flying. Il y a une autre partie, mais j'ai pas assez de place dans le chat Discord pour l'envoyer. Alors, Melk, ta question c'était une grande maison, c'est ça?
Oui, et même spécifiquement qu'elle soit haute, qu'il y ait beaucoup d'étages.
Ok, donc, ouais, je vais te dire ça.
Je ne sais pas quel mot rechercher. Immeuble, perchoir, je sais pas.
Bah, on peut trouver. Généralement, alors moi, en tout cas, de ce que j'ai dans mon dictionnaire, généralement, quelqu'un qui rêve d'une grande maison, ça veut dire qu'il va trouver une femme qui va se marier et avoir une grande famille. Pourquoi? Parce que la maison représente la famille, représente l'endroit où sera la famille. Ça veut aussi parler justement d'une possible relation sexuelle avec sa femme dans le but d'avoir des enfants. Et plus la maison est grande, plus la famille sera grande juste après. Alors, la maison, ça peut aussi être un signe de richesse ou de célébration. Parce que les maisons, en tout cas à l'époque, c'était souvent là où on faisait les mariages. Et donc toujours dans cette même histoire de création d'une famille, la maison c'est la famille justement, et d'ailleurs c'est la femme qui dirige justement cette famille-là, en tout cas cette maison-là à chaque fois. Et alors est-ce qu'il y a peut-être une autre interprétation de la maison? Éventuellement, ça peut t'intéresser, on dit qu'une maison sans lumière représente une femme qui ferait des mauvaises actions. Oui, voilà, quoi. Je pense que c'est l'interprétation. Ouais, c'est l'interprétation pour maison. Je peux t'envoyer le texte en anglais exact, alors c'est en anglais. Mais pour maison.
D'accord.
House.
Parce que je retiens, parce que j'avais fait un rêve où il y avait une habitation, mais ce qui était assez caractéristique, c'est qu'elle était d'une hauteur... immense. Vraiment, le dernier étage, le sol était très très loin, quoi. Donc je pense que en termes de symbolique, il doit y avoir des choses dues au fait que c'est pas juste une maison entre guillemets banale, quoi.
Alors, ça dépend aussi d'autres choses, et là on pourrait les considérer avec les phares. Ça dépend de quel type de maison, parce qu'on dit souvent que des maisons élevées font aussi référence aux minarets, et c'est une manière de voir d'une quelque sorte le futur et se dire qu'on a un avenir prometteur en face de nous. Alors après, ça dépend, est-ce que tu étais dans la maison, est-ce que tu regardais la maison de l'extérieur, est-ce que tu étais tout en haut et tu voyais l'horizon. Mais sinon, c'est possible d'être considéré comme étant la définition de minaret, où on parle justement de soit celui qui va faire une annonce, celui qui va agir pour les gens, justement, celui qui va être là et qui va pouvoir, qui va pouvoir informer les personnes de par sa hauteur. Hein, vous savez, les slaves du prophète à l'époque se mettaient en hauteur pour réciter l'appel, pour dire l'appel à la prière, d'où les minarets actuels. Et donc, une haute maison peut être considérée soit comme une maison, donc la définition que j'en voyais, soit comme la définition de minaret. Et dans ce cas-là, minaret, rêvement parlant en quelque sorte, ce serait celui qui va appeler, celui qui va faire les annonces et celui qui va prévenir les gens, soit du danger, soit de la bonne chose qui va arriver. Mistake. Quid des rêves de réminiscence des gens en état de stress post-traumatique du coup. Alors ça compte non pas comme les rêves de Satan ni comme les rêves de Dieu, ce sont les rêves qui touchent d'expériences personnelles. Et on dit que pour éviter ces rêves-là, il faut faire la prière, il faut faire des doigts, donc des invocations avant de dormir. Et en gros, de demander à Dieu justement de nous aider à pouvoir dormir plus confortablement. J'avais pas vu ta question juste avant. Il m'arrive de faire quelques annonces. Oui, en effet, il t'arrive de faire quelques annonces. Bento, qui a une question?
Oui, j'imagine que la question a déjà été posée, mais quid des rêves érotiques où les choses sont pas forcément telles que les livres sont censés le décrire?
Alors du coup, pour le rêve,
c'est-à-dire avec des pratiques pas forcément destinées à faire des gosses, quoi.
Non, je vois quand tu parles. C'est pas forcément quelque chose. Encore une fois, on n'est pas responsable de ça, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'adultère dans le cas où ces rêves-là ne sont pas des rêves où on voit une reproduction sexuelle qui est destinée à faire des enfants. C'est un truc qui est spécialement fait par plaisir, c'est une sorte de manière de se dire « faites attention à vos rêves ». Après, il y a aussi une autre raison derrière, c'est, vous savez, bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas dans l'islam, la masturbation en tant que telle est interdite, sauf si vraiment on n'arrive vraiment pas à se contrôler, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait des rêves érotiques pour justement éjaculer ensuite, pour éviter d'avoir une maladie au niveau de ses organes reproducteurs. Voilà. En tout cas, on n'est pas responsable justement de ces rêves érotiques. Et généralement, c'est-à-dire faites attention à l'adultère, ou bien c'est une manière justement de pouvoir préserver ses organes reproducteurs.
D'accord, donc c'est une mise en garde, quoi.
Alors Gizmo, en fait, moi, je reste bloqué sur le côté culturel. Par exemple, les théâtres grecs, c'était des personnes qui étaient en bas des autres. Alors pourquoi maintenant être en nu par rapport aux autres, c'est la bonne parole, en tout cas dans un rêve. Alors être en haut par rapport aux autres, je suppose que c'est être en haut par rapport aux autres, je suppose que c'est ce que tu veux dire. Déjà, le truc, c'est que les théâtres grecs, surtout, c'est des théâtres, c'est en sorte une mise en scène, etc. Et généralement, quand on dit être en haut par rapport aux autres, c'est parce que dans la religion, on considère que
Ah oui, on t'a perdu 2 secondes, tu dis, ok, idéco-rico, il revient.
j'ai été déconnecté, je sais pas si vous m'avez entendu, je reviens. Donc je continue. Alors oui, parce que généralement on considère que Dieu se situe en haut, qu'il est tout puissant, qu'il est dans le paradis, que le paradis est en haut, et du coup que par conséquent, être en haut, c'est se rapprocher de Dieu, donc avoir une position qui serait plus importante. C'est pour ça qu'on le dit. Après, encore une fois, le haut n'est pas forcément symbole de l'ascension sociale. Ça peut aussi être typiquement rentrer dans un bateau. L'ascension sociale, comme sortir d'un bateau peut être quelque chose de négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des interprétations, il y a des interprétations qui sont générales, mais qui ne sont pas forcément toujours vraies. Oui, ça dépend encore de la culture. Je voulais montrer, par exemple, pour les pigeons. Pour les pigeons, dans l'Occident, ça peut être s'être fait duper, s'être fait tromper, s'être fait arnaquer. Pour autant, en tout cas dans les sociétés orientales, on considère être pigeon comme quelque chose de positif parce que justement, le pigeon est l'animal fidèle. D'où le fait que les interprètes doivent absolument connaître les cultures. Et c'est pour ça que, justement, j'ai précisé plusieurs fois que celui qui voulait interpréter les rêves devait appartenir au territoire duquel la personne qui est arrivée est en fait. Typiquement, si j'ai envie d'interpréter le rêve de quelqu'un qui est en Inde, eh ben, il mieux vaut que je sois en Inde également pour mieux comprendre. Vous savez, en Inde, par exemple, la boue signifie parfois symbole de prospérité. Pourquoi? Parce que ça découle de l'eau, et l'eau, bon, la prospérité. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sociétés comme les sociétés occidentales où on voit l'Inde d'une manière un peu plus négative. En tout cas, dans certaines parties de l'Inde, parce que je sais que par exemple à Kerala, c'est le cas. Par contre, à Pondichéry, je pense pas forcément que c'est le cas. Alors, est-ce que d'autres personnes ont une question? Alors, mais un dieu qui est supérieur, ce n'est pas un dieu imbu de ces personnes. Je veux que les gens qui ont atteint un certain niveau d'art, ils ne s'amusent pas à dire à tout le monde et ils parlent aux autres au même niveau d'égalité. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que Dieu ne va pas forcément insister sur le fait que, enfin, dans tes rêves, on ne va pas forcément toujours insister sur le fait que Dieu est supérieur. C'est juste une manière de se dire que nous, si nous, on est supérieur, et par supérieur, déjà supérieur en pouvoir, supérieur en pensée, supérieur en sagesse, si nous, on est supérieur, c'est qu'on se rapproche de cette personne-là, c'est qu'on se rapproche de Dieu. Et justement, on ne va pas s'amuser à le dire à tout le monde également. On est au même niveau d'égalité, mais par supérieur, j'entends pas forcément quelqu'un qui est supérieur aux autres, c'est probablement dire quelqu'un qui a plus de sagesse, quelqu'un qui a plus d'intelligence, ou quelqu'un qui a plus de maturité. C'est pas forcément quelque chose, quelqu'un du genre le président ou je ne sais qui. Supérieur, peut-être supérieur certes politiquement, mais aussi supérieur intellectuellement. Et j'en passe en fait, hein. Par supérieur, j'entends juste s'améliorer en quelque sorte. Alors par contre, dans le cas de la personne qui sort du bateau ou dans le cas de la personne qui rentre du bateau, généralement c'est plus l'ascension sociale, ça c'est vrai. Par contre, la personne qui vole, c'est soit la supériorité de sagesse, la supériorité de pensée. Par contre, encore une fois, dans le cas du bateau, on considère à 99% que c'est une ascension sociale. Et que penser des objets censés influencer ou contrecarrer des rêves? Je pense par exemple aux attrape-rêves amérindiens. Alors, c'est un peu compliqué, mais en fait, dans les sables, on considère qu'ils n'ont aucune signification. Ils n'ont aucune signification, sauf si on leur donne une signification. De la même manière, c'est le cas pour les sorciers, par exemple. Dans la sorcellerie islamique, on dit souvent que les sorciers n'ont aucun pouvoir, n'ont littéralement aucun pouvoir, et que le pouvoir, c'est nous qui donnons ce pouvoir-là. D'ailleurs, vous savez, j'aime bien prendre des exemples en fait, de dessins animés parfois ou de films qui peuvent être intéressants parce que j'aime bien avoir une tournure philosophique justement à ces séries-là. Et le pseudo de Bistake ou de Mistake me rappelle encore une fois Lego Ninjago. Dans la saison Skybound, on parle des djinns et les djinns comme étant des gens qui n'ont pas de pouvoir mais qui se servent justement du pouvoir des autres. Et on considère les attrape-rêves comme étant quelque chose de pareil. Les attrape-rêves en tant que tels n'ont aucun pouvoir. Mais en fait, c'est une sorte d'effet placebo. Et justement, le Coran, en tout cas, interdit ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il faut être réel avec soi-même. Et Pradis, c'est la saison 6, ça, je crois. Oui, je crois que c'est la saison 6 aussi. 6 ou 7. Je crois que la saison 6, c'est les serpents, c'est la session. Pardon, pas les serpents, c'est les fantômes de la saison sur la possession, voilà.
Alors, je rebondis, parce que du coup, à la fois, tu considères, enfin, il est considéré que ça n'a pas d'impact ou d'importance, ces objets, mais à la fois, tu as dit que ça en a si toi seulement tu y mets une intention dessus, ou un truc comme ça.
Ouais, bah en fait, l'objet en tant que tel n'a aucun pouvoir. C'est comme typiquement les statues de Jésus ou quoi que ce soit. On considère, nous, les musulmans, que ça n'a aucun pouvoir. On peut le détruire, on peut la créer, y a aucun pouvoir. Par contre, si jamais on assimile à cet objet-là, alors je vais répondre après à Doug Jason. Si jamais on assimile à cet objet-là un certain pouvoir, on aura une impression de pouvoir. Quelque chose qui n'existe pas forcément et ça sera une tromperie, ce sera une escroquerie, une arnaque. En tout cas, c'est comme ça qu'on considère dans l'islam. Ça fait référence en fait à l'histoire des anges Harout ou Marout. Alors je sais plus comment ça se dit en français, je crois qu'en français c'est Harod et Marod, qui étaient descendus à l'époque à Babylone, sous ordre de Dieu, et enfin, bon, encore une fois, on rentre dans la religion, hein, libre à vous de croire ou de ne pas croire, qui étaient descendus à Babylone sous ordre de Dieu et qui disaient aux gens, écoutez, on peut vous apprendre la magie. Par contre, attention, nous sommes un test, et si vous venez avec nous, vous partirez en enfer. Nous sommes un test envoyé par Dieu, et si jamais vous voulez apprendre avec nous, vous partirez en enfer. Ils disent aussi, nous n'avons aucun pouvoir, c'est Dieu qui nous permet de faire ça. Et de la même manière, les attrape-rêves, etc., c'est un peu comme des doudous. Vous savez, quand j'ai mon doudou, j'ai l'impression d'être content, d'être protégé par quelque chose, mais en tant que tel, mon doudou, que je détruise ou pas, ça n'a aucune signification. Donc, l'essence même de l'objet n'a aucune signification. L'essence même de l'objet ne marche pas. L'essence même de l'objet, c'est juste un objet décoratif. Ce qui est interdit dans l'islam, c'est de donner à cet objet des attributs divins. Cet objet-là ne va pas vous protéger. En tout cas, c'est ce qui est dit dans l'islam. Par contre, ça peut éventuellement vous rassurer de savoir qu'il existe là. C'est ce que je pensais, Zach, avant de voir le marabout sur le tam-tam, avant de voir le marabout, de taper sur le tam-tam pour appeler les serpents. Alors, je vois pas forcément, parce que du coup, ça c'est du maraboutisme, je suppose, africain, parce que dans l'islam, du coup, on n'a pas ça. Par contre, ce que je pourrais éventuellement répondre à Black Jason par rapport aux serpents, ça c'est un peu plus ma spécialité. Si un jour, alors les serpents c'est un signe de. Ah. On considère souvent dans l'islam que se voir en face à face à un serpent, pendant qu'on fait un rêve, un serpent en train de danser, en train de se dandiner et éventuellement en train d'ouvrir sa bouche, sa gueule, je sais pas comment on dit pour un serpent, ça pourrait être un signe de possession démoniaque. Ça pourrait être un signe, c'est pas forcément le cas. En tout cas, en rêve, c'est comme ça qu'on le détermine, en tout cas dans l'islam. Ça a souvent été le cas et les serpents sont souvent vus comme signe de possession démoniaque. Mais attention, ils sont aussi souvent vus non pas comme signe de possession démoniaque, mais comme signe de santé. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit souvent dans les symboles de la pharmacie. Pourquoi comme signe de santé? Parce qu'ils sont très résistants et du coup c'est un symbole de résistance, un symbole de résilience. Et Gizmo, j'arrêterai de dire toutes tes bêtises. Alors, la définition de serpent dans le dictionnaire, elle est gigantesque. Je vais pas pouvoir l'envoyer sur Discord parce qu'elle est beaucoup trop grande. C'est l'un des mots avec le plus avec le avec la définition la plus grande. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que En anglais, le mot serpent et le mot snake ont deux connotations différentes. Le mot snake, ce sera plus avec une connotation péjorative, alors que le mot serpent aura plus une connotation de résilience. Quand on parle de snake, on va parler souvent de justement la traîtrise, la possession de trahison. Alors que quand on parle de serpent, on parle de comment ça s'appelle? On parle de résilience. On parle souvent aussi de santé et on parle de un nouveau soi en fait. Et oui, c'est ce que disait Dédé parce que justement il change sa peau. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Peut-on interférer dans le rêve de quelqu'un? Alors, il est possible d'être apparent. Enfin, typiquement, je peux être en train de rêver et je peux t'avoir dans mon rêve. Pour autant, tu vas pas pouvoir contrôler mon rêve. Par contre, ce qui existe, c'est la possession démoniaque, en tout cas dans le Coran. Ce qui existe, c'est la possession démoniaque et les sorciers, etc. Et dans ce cas-là, c'est possible d'interférer les rêves de quelqu'un, justement en essayant de payer un sorcier ou quelque chose du genre. Et quand on fait ça, alors c'est interdit dans la religion musulmane, justement, la sorcellerie. C'est tout un autre domaine, ça, je pourrais vous faire tout un autre livre blanc là-dessus, parce que c'est beaucoup trop. C'est vraiment tout un autre domaine. Mais il est possible, typiquement, de demander à un sorcier de jeter un sort sur quelqu'un d'autre pour qu'il ait des cauchemars. Pour éviter cela, comment faire? Ben, il faut faire des invocations la nuit. Et quand vous faites cela, la personne qui jette le sort sera punie. La personne qui a subi le sort sera récompensée parce qu'au final, il s'agit d'un test. Peut-on faire un rêve commun? Alors, les rêves communs ne sont pas forcément possibles, sauf à la fin du monde, vers la fin du monde. Ce ne sera pas forcément des rêves communs, ce sera plus les mêmes rêves que chacun aura en fait. Parce que du coup, on se rapproche de la fin du monde, et plus tu te rapproches de la fin du monde, plus on dit que les signes de la fin du monde seront explicitement dits dans les rêves. Et donc, c'est pas un rêve commun, mais on va rêver à peu près de la même chose, quoi. Mais tu seras pas dans mon rêve, je serai pas dans ton rêve. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, parfois je parle un peu vite. Bon, c'est mon premier livre blanc, donc soyez un peu tolérant, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je reprécise quelque chose, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on dit quelque chose sur les visages durant les rêves? Je vous ai donné un exemple, c'est le sourire. Typiquement, le sourire, quand on rêve et qu'on pense à un sourire, c'est souvent on parle de confiance. C'est-à-dire qu'on est confiant, on est confiant dans sa personne et qu'on est capable d'entreprendre des actions. Et aussi le sourire dans les rêves, en tout cas islamiquement parlant, c'est-à-dire qu'on a des bonnes relations sociales. Pourquoi? Parce que le prophète disait que une des premières choses à faire quand on rencontre quelqu'un, c'est de sourire. Pourquoi? Parce que ça éclairera sa journée, ça éclairera la tienne aussi, et ça bénéficiera les deux. D'ailleurs, le prophète disait aussi, quand on part à la mosquée, il faut partir par une route, et ensuite quand on part à la mosquée, on rentre par une route, et on sort par une autre route. Pourquoi? Comme ça, on rencontre d'autres personnes auxquelles on pourrait sourire, pour comme ça leur éclairer la journée, et leur dire bonjour, et pour qu'elles puissent passer une belle journée. C'est pas quelque chose d'obligatoire, on appelle ça une sunna, c'est ce que le prophète faisait. Il rentrait par une porte et sortait par la porte de derrière, comme ça il pouvait dire bonjour à ceux qui n'avaient pas dit bonjour par l'entrée. Et il pouvait croiser tout le monde. Donc, le sourire, par exemple, c'est quelque chose qui est très important, en tout cas dans l'islam. Et oui, du coup, ça répond à peu près à ta question. Est-ce que ça dit quelque chose sur les visages? De même pour les rêves et les choses, de même pour les pleurs et les choses comme ça. Ok, alors, c'est pas une de mes spécialités. Du coup, il y a probablement des gens qui connaissent mieux le sujet que moi. Juste que j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça. Et ouais. Le jeûne amène-t-il des rêves différents? Oui, le jeûne amène des rêves différents. Alors, bon, d'abord, tout ce qui est bon, normal, hein, L'évaluation, en quelque sorte, c'est rêver de nourriture parce qu'on a faim. Ce qui n'est pas forcément un message de Dieu, ce qui est plus des rêves personnels, hein, ça part des conséquences personnelles. Le message de Dieu, par contre, par rapport aux jeunes, ce serait justement de voir un jardin dans son rêve pendant qu'on jeûne. Pourquoi? Parce que ça ferait référence au paradis, et dans ce cas-là, on ferait référence justement aux fruits qu'il y a au paradis et à toute la nourriture qu'il y aura au paradis. Et quelqu'un qui jeûne et qui voit un jardin dans son rêve, qui voit un jannah, comme je t'ai expliqué avant, donc un jardin dont on ne connaît pas les propriétaires, c'est quelqu'un qui a justement des bonnes actions et quelqu'un qui va probablement aller au paradis. Donc oui, le jeûne amène des rêves différents. Ça peut être la fin, comme ça peut être quelque chose de positif, parce que le jeûne est une épreuve. D'ailleurs, pour l'anecdote, le jeûne, on appelle ça, par définition, le jeûne, c'est un djihad, parce que le mot djihad, en fait, ça ne veut pas dire les guerres de religion, quoi que ce soit. Du mot djihad en tant que tel, c'est-à-dire l'effort. Le jeûne est un effort, et donc voilà. Alors, j'aime bien l'idée de la phrase simple sourire, mais moi j'aime bien sourire aux gens, m'en remettre mon pain dans le nez, sourire ou l'intention de bien-être, j'ai surtout voulu faire. Bah justement, tu parles de la comparaison entre l'intention et l'acte, et c'est ce que le prophète Daniel expliquait, et c'était une des raisons pour laquelle tu oublies, comment ça s'appelle, tes rêves. C'est, comme le disait le prophète Daniel, en tout cas, c'est d'abord bon, les péchés, etc., mais c'est aussi la différence entre l'intention et les actes. L'intention qui est plus importante que l'acte, on appelle ça la niya. Typiquement, par exemple, avant de faire la prière, il faut dire j'ai l'intention de faire la prière de l'après-midi, de midi, du soir, etc. Pourquoi? Comme ça, si jamais on doit partir pendant qu'on fait sa prière, et ben, elle compte quand même. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'intention de le faire. L'intention passe avant l'acte. L'intention, c'est ce qui compte plus que l'acte même. Et oui, donc la comparaison entre l'intention et l'acte. Je suis totalement d'accord avec toi. Et bah, c'est ce que le prophète Daniel expliquait. En tout cas, c'était de dire oui, si vous oubliez vos rêves, c'est probablement parce que votre intention diffère de votre acte ou que votre acte diffère de votre intention. Dédé, j'avais entendu quelque part que le djihad pouvait aussi être traduit comme chemin initiatique. Ça peut, même si généralement, chemin initiatique, on va le traduire par Sirat al-Mustaqim. Donc, Sirat al-Mustaqim peut dire chemin initiatique et qui veut aussi dire chemin de la droiture, donc le chemin à suivre. Mais la définition littérale et la définition principale de djihad, c'est l'effort. Et de base, c'est surtout l'effort mental. Typiquement, ça c'est l'exemple que j'aime bien donner à mes camarades. Je suis dans physique-chimie, par contre, quand je fais un exercice de physique-chimie, bah, techniquement, je fais le djihad. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un blanc ou si c'est moi qui n'entends plus, mais ouais. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un point d'interrogation, vous pouvez prendre la parole, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent la parole directement, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas.
Est-ce que tu crois que tu vas rêver de ton examen de demain?
Écoute, probablement parce que c'est mon oral, enfin mon grand oral du bac justement. Mais bon, moi, je vous avoue, j'ai pas tellement l'habitude de dormir. Surtout que la bourse a ouvert il n'y a pas longtemps et du coup, je devrais rester réveillé pour quelques jours histoire de vérifier la bourse. Donc bon, je dors pas beaucoup, donc il m'arrive pas tellement de rêver. Alors, je conseille à personne de ne pas dormir beaucoup parce que c'est extrêmement important et c'est vrai que souvent d'avoir des migraines et tout parce que je ne dors pas beaucoup. Donc vraiment un conseil à vous, dormez bien. Et alors, Prali, j'ai pas du tout compris le lien avec la physique-chimie. C'est simple, j'ai un exercice de physique-chimie, je suis en physique-chimie, pourtant je m'entraîne à faire de la physique-chimie, bam, je fais le djihad. Pourquoi? Parce que je fais un effort, parce que c'est compliqué et si c'est un effort, on appelle ça le djihad. Voilà. Bah, Gizmo, rien d'important spécifiquement. Enfin, j'ai juste répondu aux questions. Si tu as une question, n'hésite pas, il n'y a pas de souci.
Pour continuer un peu sur ma question, si par exemple cette nuit tu rêvais de ton oral de demain, ce serait plutôt un rêve que tu aurais expliqué dans la troisième catégorie, à savoir un rêve qui était personnel, qui n'est pas forcément dans les deux premiers cas de Dieu ou de Satan,
Ouais,
quelque
c'est
chose.
ça.
Ok.
Ouais, c'est ça.
Une
Merci Zach, ça
question?
donne envie de dormir pour voir de quoi on va rêver. Alors bah prenez votre douche avant de rêver, enfin avant de dormir, histoire d'être propre et de sentir bon, et comme ça vous allez bien redormir et ça va être un bon dodo. Shunzu, question.
Ouais. Bon, elle m'est venue comme ça un peu rapidement, donc je vais la poser telle qu'elle vient. Si on prend par exemple le cas de quelqu'un qui fume de l'herbe, je pense pas que ce soit préconisé par la religion, peut-être, je sais pas. Ça l'est ou pas? Pour savoir si ma
Non,
question sera juste. Ok.
ça ne l'est pas parce
Bon.
que en fait, on n'a pas le droit de prendre des choses qui modifient la perception de la réalité lorsqu'on est réveillé, ni même d'ailleurs quand on dort.
Ok.
Mais ouais, ça ne l'est pas.
Donc du coup, c'est une substance qui nous prive de rêves, entre guillemets, ou en tout cas qui fait qu'on les oublie. Je ne sais pas si quand on ne rêve pas, parce qu'il y a des théories qui disent que quoi qu'il arrive, on rêve, et que si on croit qu'on n'a pas rêvé, c'est juste qu'on ne s'en rappelle pas. Mais c'est vrai que quand on consomme certaines choses, les rêves peuvent être moins fréquents. Et c'est quoi du coup la perception par rapport au savoir que tu as de l'islam, c'est qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Parce que d'un côté, ça enlève tout rêve, y compris les mauvais. Donc quelque part, ça éviterait de se faire toucher par Satan, je sais pas. Enfin, je sais pas trop où je veux en venir, mais qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Voilà, le fait de consommer quelque chose qui nous prive de rêve, comment tu le perçois?
Le fait de consommer quelque chose qui nous prive de rêve, ça correspondrait en fait à peu près à ce qu'a dit le prophète Daniel, parce que ce serait un péché. Et justement, le prophète Daniel disait que avoir des péchés nous empêche de nous rappeler de nos rêves. Et de la même manière, il ne faut pas oublier surtout l'explication scientifique derrière. Il y a probablement une explication scientifique sur les liaisons des neurones, etc., que je ne connais pas, je vous avoue. Mais en tout cas, l'aspect religieux, moi je vous dirais en tout cas que le prophète Daniel a dit que celui qui a des péchés, celui qui modifie sa perception de la réalité ne va pas se rappeler de ses rêves en guise, entre guillemets, de punition pour avoir justement effectué ce péché-là, que ses rêves soient positifs ou que ses rêves soient négatifs.
D'accord? Et quelqu'un qui est hanté par des mauvais rêves, par exemple, qui en fait trop régulièrement, est-ce que ça peut être toléré, même si je pense qu'il y aurait des solutions plus souhaitables? Mais est-ce que ça peut être vu comme quelque chose qui nous protège des attaques de Satan, par exemple? Ou est-ce que justement, au contraire, les attaques de
Ouais.
Satan sont des invitations à la réflexion, de remise en question, etc.? Comment c'est perçu?
Alors, généralement, on considérait plus que les attaques entre guillemets de Satan sont plus des invitations à la réflexion et il faudrait faire la prière, la douche, etc., pour histoire de les éviter. Après, il y a un principe dans l'islam qui est très important, c'est le fait de dire que ce qui est haram, donc ce qui est interdit, peut devenir autorisé dans une situation extrême. Ça, c'est le cas pour tout ce qui est interdit dans l'islam. Dans une situation extrême, on a le droit d'effectuer cela. Typiquement, si jamais je suis dans le désert et qu'il y a juste. Enfin, imaginons. Si je suis dans le désert et qu'il y a juste un cochon en face de moi et que je dois manger absolument, parce que sinon je vais mourir de faim, eh bien, j'ai le droit de manger ce cochon-là, même si normalement c'est interdit. Dans l'islam, il y a toujours cette possibilité en cas d'extrême importance, mais vraiment extrême, en cas de dernier recours, mais vraiment un dernier recours. Justement de faire quelque chose qui est censé être interdit mais qui sera pardonné automatiquement. Alors après par contre je reprécise, dernier recours, il faut absolument qu'il y ait l'intention derrière et qu'il faut vraiment cette notion de dernier recours. Certains disent ouais mais moi je peux juste dire que j'ai l'intention. Amusement te répondrait Dieu sait. On dit Allah ya'lam, c'est-à-dire Dieu sait si tu as la bonne intention ou pas et si tu l'as tu seras pardonné. En réponse au commentaire du dernier recours, puis du cannibalisme. Alors, excellente, excellente, excellente question. Alors, le cannibalisme, par contre, ça c'est une des choses qui est interdite en cas de dernier recours. Pourquoi? Alors, on va rentrer un peu plus dans une vision ésotérique, on va rentrer un peu plus dans une raison sophiste, soufiste, et non pas sophiste de l'islam. C'est quelque chose que j'aime bien. En fait, je considère souvent que La religion islamique, elle est là pour, enfin, les religions islamiques, mais la religion, les religions en général, que ce soit chrétienne ou juive, sont là en fait pour protéger la nature. Voilà. Et donc, elles vont être là justement pour aider à faire en sorte d'augmenter l'espèce humaine, à faire en sorte de protéger l'espèce humaine et de protéger toutes les autres espèces. Et dans le cas du cannibalisme, en fait, on serait contraire à l'espèce, on ne protégerait pas l'espèce, et du coup, on considère que c'est interdit. Dans le Coran, il n'y a pas forcément notion directement du cannibalisme. Pour autant, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu peux pas manger un animal avec du sang ou quelque chose du genre. Et tu peux pas faire du mal à un autre être humain, typiquement. Hein, ni à un animal d'ailleurs, sauf dans le cas d'un égorgement halal. Mais non, en cas de dernier recours, le cannibalisme ne sera pas autorisé. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on pourrait aussi un peu changer de sujet. Si vous avez d'autres questions, moi, ça ne me dérange pas forcément. Évitez juste d'entrer dans un débat ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour débattre ou quelque chose du genre. On est là surtout pour essayer d'apprendre des nouvelles cultures. Et vous aussi, si vous voulez témoigner de vos cultures, de vos rêves, rêves positifs, n'hésitez pas. Melk a une question, j'écoute.
Qu'en est-il de la voyance? Est-ce que c'est considéré dans l'islam comme des personnes qui touchent à une forme de rêve? Est-ce qu'il y a des ponts à faire avec?
Alors, si par voyance tu entends la dame avec la boule de cristal qu'il va avoir dans le futur, ça c'est interdit. Ça fait partie de tout ce qui est la sorcellerie, etc. C'est une de mes spécialités, justement, ça c'est totalement interdit. Après, si par voyance tu entends avoir des visions quand on dort ou des visions quand le matin ou quelque chose du genre, ça c'est possible, ça existe. Et en toute franchise, moi ça m'est déjà arrivé pour un truc totalement stupide, mais ça m'est déjà arrivé. Pour anecdote, j'ai une vision comme quoi j'allais me retrouver avec le fils du professeur de mon lycée en train de tester des costards pour avoir une cérémonie lors du brevet. Et ça s'est vraiment arrivé. Et je peux vous jurer, vraiment, ça s'est vraiment arrivé. Moi-même, je me rappelle encore maintenant, alors que maintenant je suis en terminale, quoi. Mais oui, les visions, c'est possible. Par contre, la voyance est interdite et la voyance n'existe pas. C'est faux, on peut pas lire dans la ligne de la main, en tout cas selon le coran, on peut pas lire dans la ligne de la main, on peut pas lire dans une boule de cristal ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas forcément un des thèmes qui est d'ailleurs dans la religion islamique. On parle souvent plus dans la religion islamique de typiquement le divorce, par exemple. Un sorcier peut essayer de semer la discorde dans un couple, mais la voyance en tant que telle n'est pas forcément un cadre, enfin n'est pas forcément un domaine très très explicite en fait dans le coran, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est interdit.
Y a-t-il pas eu des formes d'oracles dans certains...
Si.
Mais du coup, c'était des rêves prémonitoires que eux aussi faisaient?
Si, en fait, alors, il y a plusieurs types d'oracles, et d'ailleurs, ça c'est une des histoires que j'aime le plus, et d'ailleurs que. Enfin, bon, je vais en parler juste après. D'abord, il y a les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, encore une fois, c'est les visions, c'est pas forcément de la voyance comme un sorcier ou quelque chose du genre. Moi, je fais plus de la voyance en tant que sorcellerie ou avec la boule de cristal et tout, comme on le voit dans les films, ça c'est interdit. Par contre, il est tout à fait possible d'avoir des visions d'un événement dans le futur, que ce soit quelque chose de prémonitoire de la fin du monde ou juste une vision de quelque chose qui va se passer après. C'est tout à fait possible et ça, c'est pas forcément interdit, c'est pas forcément négatif. Ce qui est interdit, ce qui est négatif, encore une fois, c'est le délire de la boule de cristal, de oh, je vais lire dans les lignes de ta main, vous savez, des cartes et des trucs de genre, ça c'est interdit. Maintenant, ta question d'oracle, ça me rappelle une histoire dans Sourate Al-Kahf, les versets, alors je sais plus c'est quel verset exactement, mais je crois que c'est vers la fin, ça doit être dans les 25, 20, 30 versets. On parle de l'histoire de quelqu'un qui s'appelait El-Khedr. Alors, vraiment, j'ai pas envie de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, mais si vous avez l'occasion, écoutez vraiment ces derniers versets, parce que c'est une leçon philosophique, plus que tout. Et en fait, c'était un homme à qui on avait donné le savoir, à qui Dieu avait donné le savoir. Et à l'époque, alors si je me rappelle bien, c'est le prophète Moïse en fait qui allait voir cet homme-là. Et il lui a dit, oui, écoute, El-Khedr, j'aimerais avoir le même savoir que toi. J'aimerais voir comment tu vis. Donc El-Khedr, un jour, il va lui montrer, il va dire, écoute, je peux t'emmener dans mes aventures à moi. Par contre, la seule question, c'est que tu me poses aucune question. Enfin, le seul besoin, c'est la seule obligation, c'est que tu me poses aucune question. quand je fais quelque chose, vraiment, tu ne poses pas de questions, tu ne dis rien. Et donc, c'est en fait, c'était un oracle en quelque sorte. Hein. Le 3D, ça se traduit parfois en tant qu'oracle. Et donc, ce qu'il a fait d'abord, c'est qu'il avait, détruit un mur. Okay, donc, il était parti dans la maison de deux orphelins, il avait détruit un mur. Et donc, t'as le prophète qui a demandé, bah oui, mais pourquoi est-ce que t'as détruit le mur ? L'oracle lui a répondu, écoute, laisse-moi faire. Et puis, un autre jour, il va aller voir une famille, en fait, et il va tuer l'enfant. Le prophète lui dit, oui, mais pourquoi est-ce que tu tues un enfant ? Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, enfin, pas dangereux, mais c'est extrêmement grave et tout, ça se fait pas, quoi. Et le chrétien va lui répondre, écoute, je sais ce que je fais. Et puis, il y a d'autres histoires de ce genre-là. Et à la fin, au final, L3D va répondre justement et va dire écoute, regarde, cet enfant-là que j'ai tué, il allait grandir, il allait devenir quelqu'un de méchant, il allait être irrespectueux envers ses parents, il allait devenir quelqu'un de très dangereux. Et ça, c'est Dieu qui m'a donné justement cette soin, c'est sa destinée, j'étais au courant de sa destinée, j'avais la notion, il était omniscient. Et quant au mur que j'ai cassé, tu ne le sais peut-être pas, mais les deux orphelins qui ont trouvé ce mur cassé là ont trouvé un trésor, justement l'héritage de leurs parents, et maintenant vivent confortablement. Donc en fait, c'est la définition de l'oracle. Alors je peux vous envoyer la page Wikipédia d'Alfredel. Il y a une erreur dans la page Wikipédia d'Alfredel où on parle de la légende d'Océano, c'est d'Alexandre le Grand. On fait référence ici à Jouge, donc Gog et Magog. La partie sur Alexandre le Grand est fausse, mais le reste est assez juste, et voilà. Donc, je pas, genre. Voilà.
Donc en gros, toutes les formes de divination sont interdites, sauf celle des rêves.
Alors, qu'est-ce que tu entends par divination ?
Ben, peu ou prou, prédire l'avenir, qu'il soit général ou celui d'une personne, puisque tu as l'air de dire qu'il y a des oracles qui, pour le coup, étaient reconnus.
Pour le coup, c'était qu'un seul oracle. Hein. L'histoire de Redel, elle existe. C'est un seul oracle qui a existé vers 665. D'ailleurs, il n'a pas son nom qui était précis. Ça s'appelait un de nos serviteurs. Je te conseille, si tu as le temps, d'écouter ou de lire ces versets-là qui racontent mieux l'histoire que moi, parce que j'ai probablement sauté quelques détails.
Même dans les textes de l'islam, il n'y a pas fait référence des fois de prophéties, ou alors c'est que des, par exemple, des anges qui les révèlent aux hommes.
Si, il y a des prophéties, mais c'est soit des anges qui les révèlent aux hommes, soit les prophètes qui ont reçu ces prophéties de Dieu, ou qui les ont reçues notamment dans leurs rêves. Le prophète Mahomet alors Gizmo, je vais répondre pour libre arbitre. Le prophète Mahomet avait souvent des rêves de guerre qui allaient préciser justement, oui, il y a cette guerre-là qui va s'arriver et tout. Il a justement eu le rêve, par exemple, de la grande guerre à la fin du monde. Et typiquement, ce sont des prophéties. Et dans ce cas-là, oui, il y a une prédiction de l'avenir. Par contre, un humain, entre guillemets, normal, comme vous et moi, on ne peut pas prédire cet avenir. On peut pas prédire l'avenir, sauf dans nos rêves, on peut éventuellement avoir une ouverture vers l'avenir, on peut avoir un indice de ce qui va se passer après, mais seulement à travers les rêves. Gizmo, sa dernière histoire me perturbe, ça dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Non, c'est compliqué. Gizmo, je sais pas si tu as vu l'interview de Idriss Aberkane, mais il explique très très bien. Le libre arbitre dans l'islam, en fait, il y a plusieurs livres qui expliquent la différence entre le libre arbitre et la prédestination. Si je te demande de lever une jambe, tu peux lever ta jambe, c'est libre arbitre. Maintenant, si jamais je te demande de lever ta jambe tout en gardant l'autre jambe levée, tu vas jamais pouvoir le faire parce que là, tu vas tomber. Et dans ce cas-là, c'est le maktoub, c'est l'écrit. Il a écrit que si jamais tu lèves tes deux jambes en même temps, alors tu vas tomber. Pour autant, tu peux lever ta jambe, tu peux choisir de lever ta jambe. Et il y a aussi un autre exemple qu'on dit. Supposons un professeur. Donc tu as le professeur dans une classe. Donc, tu as une classe de 20 élèves, etc. Le professeur connaît extrêmement bien ses élèves. Ok ? Et même s'il connaît ses élèves, ce professeur-là, il va pouvoir dire, tellement qu'il connaît bien ses élèves, il va pouvoir prédire en quelque sorte la note que ses élèves vont avoir. Et s'il est extrêmement bon, il va pouvoir prédire la note exacte que ses élèves vont avoir. Pour autant, c'est ses élèves qui vont faire le choix de faire l'évaluation. Et c'est ça en quelque sorte, c'est que Dieu, en tout cas dans la conception islamique, nous connaît extrêmement bien, qui sait notre destinée, qui sait comment on va arriver. il sait tous les détails, etc. Il sait ce qu'il va faire. Par contre, on aura toujours le choix de le faire. C'est ça le truc, c'est que il a l'écrit, mais l'écrit n'efface pas forcément nos choix. Nos choix sont là, juste que Dieu sait c'est quoi les choix. Il connaît les choix déjà qu'on va faire, mais pourtant il ne nous impose pas les choix. Il les connaît, mais il ne nous les impose pas. Ça va quand même être nous qui les font. Pourquoi est-ce qu'il les connaît? Parce qu'il nous connaît, il nous connaît tellement bien. Encore une fois, supposons un professeur qui connaît très bien ses élèves, il va pouvoir essayer de prédire la note que ses élèves vont avoir. Shunzu, tu as une question?
Ouais, c'est une question que je vais te poser, mais que je me pose aussi. Tout à l'heure, tu parlais de personnes à qui Dieu parlait. Et je voulais savoir le traitement aujourd'hui qui était réservé à une personne qui vient devant l'autorité religieuse, qui prétend que Dieu lui a parlé. Quelles sont les réactions, quels sont les tests éventuels qui passent pour savoir si c'est vrai ou pas, comment ça se passe? Parce que tous les personnages, les grands personnages bibliques sont des gens qui ont pu échanger avec Dieu. Et on aurait tendance aujourd'hui à les foutre en HP, mais je voulais juste savoir si d'un point de vue religieux et autorité religieuse, s'ils avaient une façon de les gérer autrement, les prendre au sérieux éventuellement. Voilà. Qu'est-ce que t'en sais?
Ok. Ouais, alors, du coup, je réponds à cette question. D'abord, par rapport au rêve. Supposons que, par exemple, quelqu'un a un rêve et qu'il est considéré comme un message de Dieu, il n'y a aucun problème. Maintenant, généralement, comment est-ce que ça se passait, les prophéties, en fait, et les choses du genre? Typiquement, à l'époque, par exemple, dans la Bible, etc., ce qui est écrit, hein, généralement, c'est que les prophètes venaient et que souvent, les gens auxquels venaient les prophètes, en fait, ne croyaient pas en prophètes et leur demandaient un miracle. Et justement, quand on leur montrait un miracle, alors là, on les croyait. Nous, les musulmans, en fait, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on considère que le dernier prophète, c'est Mahomet. Et du coup, on dit aussi qu'il n'y aura pas d'autres prophètes à part Mahomet. Et la différence, c'est quoi? Ce serait par exemple, voilà, donc un exemple, Jésus, à un moment ou un autre, en tout cas dans la conception musulmane, Jésus va redescendre sur Terre pour aider les musulmans à faire la guerre contre le Dajjal. Donc le Dajjal, hein, c'est, vous savez, c'est l'individu avec un œil et l'autre, je crois qu'on appelle ça Bigle, je crois, je ne sais pas comment on appelle ça. L'individu avec un seul œil qui va revenir sur Terre, Jésus va redescendre, et justement on peut se poser la question comment est-ce que Jésus va nous prouver en fait que c'est lui? Et ça va être un message qui sera écrit justement sur son front, sur le front de Jésus, il y aura écrit que c'est le Messie. Vous savez, quand on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, bah, le Christ c'est le Messie en quelque sorte. Et justement, on sait que ce sera le Messie parce que le faux Messie, il aura écrit sur son front que c'est le faux Messie. Alors, Melk, j'envoie une photo justement de Dajjal comme il est représenté généralement. Antéchrist, islamiquement, c'est comme ça qu'on le considère. Ça, c'est la page Wikipédia classique d'Antéchrist. La page maintenant, ça, c'est plus le Dajjal, donc l'eschatologie musulmane. Pour continuer de répondre à Shunzu, il n'y a pas de punition spécifique pour ce genre de personnes. Typiquement aux Émirats, par exemple, quelqu'un qui va aller voir l'autorité religieuse qui va dire « oui, je suis un prophète », on va dire « ouais, tu prends tes clics et tes claques et tu retournes dans ton appartement, on s'en fiche, quoi, on sait que c'est faux ». Mais il n'y a pas de... En tout cas, par exemple, typiquement aux Émirats, il n'y a pas de punition spécifique. En Arabie Saoudite, pareil, il n'y a pas de punition par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, je sais qu'en tout cas, dans le Coran, il n'y a pas de punition. Par contre... Dans le Coran, il y a une méthode de vérification, et ça, c'est une de mes spécialités, c'est la logique. On parle justement du contre-exemple et on parle du prouver. C'est-à-dire, si jamais c'est vrai, alors prouve-moi que tu arrives. Et donc là, c'est l'exemple justement du miracle. Prouve-moi avec un miracle que tu as raison. Et dans ce cas-là, je te croirai. On fait pareil, typiquement, quand on fait des religions comparées, quand il y a un débat entre plusieurs religions, comme le faisait par exemple le cheikh Ahmed Didat, il utilisait cette technique du débat, en fait, de prouver. Il disait prouvez-moi que c'est écrit, et je me convertirai à votre religion, en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut prouver, il faut que la personne puisse le prouver. Et même dans le Coran, on dit que Mahomet est le dernier des prophètes, donc on cherche pas forcément à croire ce que les autres vont dire. Éventuellement, quand Jésus va redescendre, en tout cas d'après la conception musulmane, il faudra vérifier est-ce que c'est vraiment lui, mais on le saura de par sa qualité d'âme, et on le saura parce que ce sera un événement international, en tout cas sans l'islam, et ce sera quelque chose qui sera évident.
Oh, mais cette notion de miracle, elle est un peu ambiguë, parce que je pourrais très bien te dire que si tu as besoin de voir un miracle, je pourrais te dire regarde-moi, ou regarde-toi, ou regarde n'importe quel humain vivant aujourd'hui. Parce que notre simple naissance peut être vue comme quelque chose de miraculeux. Je veux dire, le fait que ce soit toi, tu dépends de tout plein d'ancêtres, etc. S'il y en avait un qui... Enfin, Tu vois, on est issu de quelque chose et notre présence ici était juste, pour moi, suffisamment peu probable pour appeler ça un miracle, en fait.
Ouais,
Donc, tu
la
vois, tu te
différence.
dis, montre-moi un miracle, je peux jouer le con et sortir des trucs qui pourraient être vus comme un miracle. Après, c'est qu'est-ce qu'on perçoit comme un miracle?
Dans ce temps magique, le miracle, généralement, c'est ce qui n'est pas explicable scientifiquement. La différence, c'est que dans le cas d'une naissance, par exemple, si jamais tu vas dire, oui, regardez, tout le monde est né ici, déjà, la première chose que tu pourras répondre à cette personne-là qui va te dire, oui, tu es né, c'est un miracle, c'est, est-ce que je serais né aussi si tu n'étais pas là? Je serais probablement né si tu n'étais pas là également. Ce qui est scientifiquement ce qui est vrai. Et de la même manière, encore une fois, dans l'islam, on considère notre prophète comme étant le dernier prophète à arriver, et justement, c'est pour pouvoir répondre à cette question du miracle, le miracle étant quelque chose d'assez ambigu, je suis totalement d'accord avec toi, on y répond justement en disant que notre prophète est le dernier, que par conséquent, il n'y en aura pas d'autre. Donc, les miracles, entre guillemets, les soi-disant miracles qui arriveront juste après, ne seront pas des vrais miracles. Ce seront probablement des choses qui seront explicables scientifiquement, mais ce ne sont pas des vrais miracles. Et c'est comme ça qu'on y répond justement dans l'islam. Après, un exemple de miracle, typiquement Jésus, on dit qu'il pouvait soigner ceux qui avaient la lèpre, par exemple. Bah ça, c'est un exemple de miracle. Ou bien le miracle de Jonas, qui était de vivre 3 jours et 3 nuits dans une baleine. Blague à part, grosse anecdote au pêcheur qui a réussi à survivre, je ne sais pas combien de temps, dans la bouche d'une baleine récemment, il y a quelques jours. Mais oui, on considère les miracles comme étant quelque chose de contre-intuitif et quelque chose de contraire à la science comme on la connaît actuellement. Après, encore une fois, pour répondre à la question de oui, mais un miracle, tout peut être un miracle, bah oui, tout peut être un miracle, et c'est pour ça que le Coran va te dire oui, mais le dernier prophète c'est Mahomet est décédé, donc il n'y aura plus aucun miracle qui va apparaître. Alors, je ne sais pas si tu as répondu à ta question, tu peux me préciser, est-ce que ça a répondu à ta question ou pas?
Bah si c'est ta réponse, elle me va, ouais, y a pas de souci, ouais, c'est bon.
Ok. Alors, hôte énervé, question, le rêve n'est-il pas un phénomène naturel qui te réinterroge sur ta journée précédemment vécue et dans laquelle tu n'as pas prêté attention à certains faits ou événements qui se rappellent à toi de la seule façon dont peut exprimer ton inconscient, donc via ce rêve, merci. Alors, je ne sais pas si tu étais là au début de l'exposé, mais j'ai parlé de 3 types de rêves. Le premier étant le rêve qui nous a été envoyé par Dieu, le deuxième étant le rêve qui nous a été envoyé par Satan, et le troisième étant le type de rêve que tu es en train de parler maintenant, c'est le rêve qui réinterroge sur la journée, qui réinterroge sur les événements que tu as vécu. Donc oui, c'est possible. Ce n'est pas forcément le cas selon la conception islamique, mais c'est possible. Ça existe et ça peut être un phénomène tout à fait naturel et un phénomène que beaucoup de gens vivent. Alors, j'ai vu que Mike a activé son micro pendant quelques secondes. Alors, je sais pas si tu veux dire un truc ou est-ce que je continue avec la question de Gizmo?
Non, vas-y, continue, c'est bon.
Ok. Alors, Gizmo, toute science supérieure à la compréhension du peuple qui n'est pas la connaissance pour la comprendre peut être perçue comme de la magie. On peut dire que la magie est un miracle. Islamiquement, non. La magie n'est pas un miracle. La magie est descendue encore une fois par 2 anges, Harout et Marout, qui sont descendus à la ville de Babylone, selon l'histoire musulmane, qui est racontée dans Sourate al-Baqarah, donc la deuxième sourate du Coran. Ces 2 anges qui sont descendus, qui ont appris aux êtres humains la magie, et qui ont précisé qu'il n'y a pas de notion spécifique, de notion scientifique spécifique à la magie, mais ce n'est pas considéré comme un miracle. Parce que ce n'est pas quelque chose de contre-intuitif, parce que ça a été expliqué. C'est quelque chose qui a été appris, l'histoire a été expliquée derrière, et il y a des méthodes bien précises pour le faire. Un miracle, je ne peux pas forcément suivre une certaine méthode pour le faire. C'est-à-dire que Dieu est...
Coupé.
Ouais, il va
Ah.
revenir.
Parce qu'on va.
Il nous avait prévenu.
Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce que je m'en étais? C'est-à-dire que. Okay, alors. Bref, typiquement, un miracle. Enfin, non, je vais recommencer depuis le début. La magie n'est pas un miracle parce que la magie suit une certaine logique, un certain processus, une certaine démonstration derrière pour toujours avoir lieu. Un petit exemple, je peux faire un rituel de magie et je peux continuer à faire ce rituel de magie et ce rituel-là va toujours marcher si jamais je le fais bien. Autant un miracle, si jamais je fais quelque chose pour atteindre ce miracle, Jonas par exemple, quand il est rentré dans la baleine, il a survécu la première fois, mais rien ne dit qu'il survivra encore une autre fois si jamais il re-rentre dans le ventre d'une baleine. Et il est là le truc, c'est que le miracle, tu ne peux presque pas le reproduire si tu ne peux pas le reproduire, si c'est presque impossible de le reproduire. Alors que la magie, en tout cas islamiquement parlant, c'est quelque chose où il y a un processus, il y a un procédé pour le faire, d'ailleurs comme il y a un procédé pour l'exorcisme. Et dans ce cas-là, tu peux suivre une certaine démarche et tu peux refaire. Et du moment où tu peux refaire cet événement-là, il n'est plus considéré comme un miracle parce que le miracle est considéré comme ce qui était impossible, qui est devenu possible. Donc c'est quelque chose qui ne se répétera probablement jamais. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on ne considère pas la magie comme étant un miracle. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir?
C'est quoi la fonction du sommeil dans l'islam? Est-ce que c'est juste uniquement justement pour atteindre ses rêves et entrer, capter les tentatives d'entrer en communication, que ce soit de Dieu ou de Satan, du coup, selon le type de rêve qu'on fait? Ou est-ce que le sommeil a une autre fonction? Quelle est la fonction du sommeil dans l'islam? Voilà, pour poser la question simple.
Bah, déjà, la fonction du sommeil dans l'islam, c'est la fonction naturelle. Le sommeil est extrêmement important pour la santé, et ça, c'est écrit dans un des hadiths que je pourrais vous ressortir, parce que j'ai des livres à côté de moi, il faut juste que je retrouve dans lequel c'est. L'islam préconisait déjà qu'il était extrêmement important de dormir de par la santé. D'ailleurs, les compagnons du prophète disaient souvent que le prophète disait aux gens de dormir. Pourquoi? Parce que si jamais ils se réveillaient le matin, qu'ils n'avaient pas, enfin, si jamais ils ne dormaient pas beaucoup, ils n'arriveraient pas à réfléchir le matin. C'est quelque chose qu'on voit notamment aujourd'hui. Deuxièmement, le sommeil, c'est la notion de calme. Quelqu'un qui dort, il va se calmer si jamais il est énervé, par exemple. C'est ce qui est écrit justement dans le Coran. Mais également, il faut savoir que le sommeil, ce n'est pas forcément quelque chose de. Je dirais, enfin, c'est pas obligatoire, mais il y a des actions qui sont supérieures au sommeil. Typiquement, faire la prière, ça compte plus que dormir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la prière pour la toute première prière du matin. Bon, en France, il n'y en a pas, mais aux Émirats, par exemple, on a cet appel à la prière à 14 heures du matin. On dit comme à la salat, c'est-à-dire levez-vous pour la prière, en fait, c'est-à-dire réveillez-vous pour la prière. D'ailleurs, chapitre 304 des hadiths, hadith numéro, alors je crois que c'est le chapitre, alors deux secondes, je vais vous dire le numéro. On a l'exemple de comment se réveiller pour la prière. Mais on a aussi typiquement chapitre 13, page 305 du Book of Tahajjud, de la prière, donc livre de la prière. Dormir, se dormir à la première partie de la nuit et se réveiller à la deuxième partie. Donc, le sommeil est extrêmement important. Il n'est pas un des piliers de l'islam. On peut être musulman sans dormir. Par contre, c'est un peu plus compliqué d'être humain sans dormir parce que c'est dangereux pour la santé. Mais le prophète obligeait en tout cas ses hommes à dormir la nuit. Pourquoi? Pour justement être dans la capacité de réfléchir après le lendemain. Je pourrais vous envoyer après dans les heures qui suivent les différents hadiths et les différentes sources justement des paroles que je dise maintenant. Il faut juste que je reprenne mon livre et tout, ça prendra un peu de temps. Mais oui, ça me dérange pas de vous envoyer après. Alors, pour ceux qui demandent encore une fois, les hadiths, ce sont les dires et les actes du prophète qui sont récoltés par d'autres personnes, typiquement qui sont récoltés par les compagnons du prophète. On en retrouve les hadiths authentifiés, comme on les appelle, se retrouvent notamment dans deux ouvrages spécifiques, Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Il y a d'autres types de hadiths comme Rajid al-Tirmidhi et enfin Rajid al-Majdi et al-Tirmidhi, qui sont d'autres livres de hadiths mais qui ne sont pas authentifiés. Et par authentifié, j'entends. Oui, voilà, c'est un peu les équivalents des évangiles, ouais, c'est ça. Et par authentifié, j'entends que plusieurs personnes ont répété cela et donc on considère qu'ils sont vrais.
Et en ce qui concerne les personnes qui arrivent à. Je ne sais pas comment appeler ça, mais être conscient dans leur sommeil, c'est-à-dire qu'en fait, qui arrivent à
Les
driver
rêves
plus ou moins
lucides.
les événements. Ouais, si c'est ça le terme.
Les rêves lucides. Oui, alors j'avais expliqué du coup, les rêves lucides, ça correspond à une clarté d'âme et une sagesse intérieure. C'est savoir faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Savoir faire la distinction entre ce qui est vrai, entre le réel et le faux. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Mais il n'y a pas forcément mention de rêve lucide directement, je t'avoue, dans le Coran. À prendre en compte, en fait, un truc, et ça, c'est ce que Dr Zakir Naik expliquait. Le Coran n'est pas un book, n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. Il n'y a pas tout écrit dans le Coran. Les musulmans qui vous disent que tout écrit dans le Coran, c'est faux. D'ailleurs, dans Sourate Yusuf, dans donc la même sourate qu'expliquait avant, on explique dans les premiers chapitres, enfin les premiers versets, pardon, que le Coran est un livre pour vous faire raisonner, mais il n'est pas le livre qui vous donne réponse à tout. Alors, je dis très clairement, un musulman qui vous dit que dans le Coran il y a réponse à tout, c'est un musulman qui n'a pas compris. Alors, Shunzhou, je sais pas si ça répond à ta question, si tu veux que je répète ou si tu veux que je
Non, non, c'est bon.
précise.
Non, non, c'est bon. Je te remercie.
Encore une fois, j'enverrai pour ceux qui demandent les sources de mes propos dans la nuit. À noter tout de même, encore une fois, qu'on parle de religion et qu'il y a bien évidemment des choses qui sont plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. On parle de croyances, on parle pas forcément d'une science exacte. En tant que musulman, j'y crois. En tout cas, à ce qui est écrit dans le Coran, mais pas forcément à ce qui est écrit dans tout le texte d'interprétation des rêves, même si celui que je vous enverrai est reconnu comme étant le plus correct et le plus logique, et celui qui déduit le plus, celui qui descend le plus d'un syllogisme logique, et donc d'un je sais que, or je sais aussi, donc je peux affirmer, et donc on le considère comme celui qui est le plus raisonné, et c'est à partir de celui-là que j'ai fait ma présentation d'ailleurs.
Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais une question, mais un peu plus large, du coup, pour en revenir sur la fonction du sommeil, parce que quand on dort, on a quand même tout d'actif, tout est actif. C'est-à-dire que si tu entends un bruit, tu te réveilles, si tu sens cramer, tu te réveilles, enfin, tout est actif en fait, le corps bouge, y compris pendant les rêves, et du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui se repose quand on dort? Si le cerveau marche, si le corps bouge, pourquoi qu'est-ce qui a besoin d'aller dormir?
Franchement, je ne suis pas spécialiste du sommeil. Pour autant, je pourrais te... pour autant, ce que je pense, en tout cas, c'est attention à prendre avec des pincettes, c'est une opinion. Ce que je pense, c'est que déjà les muscles se reposent, mais surtout les pensées se reposent également, même si parfois on pense aussi pendant ses rêves. Donc, je t'avoue que je ne pourrais pas répondre entièrement à cette question. Mais ouais, voilà. Enfin, je sais pas exactement comment répondre à ces questions, je pourrais pas forcément répondre. Enfin, ma spécialité n'est vraiment pas le sommeil. Franchement, je sais pas répondre à cette question et je voudrais pas sortir des mensonges, je veux dire quelque chose de faux parce que je ne saurais pas répondre à cette question.
Oui, c'est une question en fait destinée à celui qui aurait pu avoir une réponse sans trop rentrer dans les détails, mais c'est parce que c'est vrai que ça me perturbe pas mal quand même, cette question.
Reformuler ta question, s'il te plaît.
Dans la mesure où quand on dort, tout est actif plus ou moins, c'est-à-dire le cerveau, le corps bouge, le cerveau, les systèmes d'alerte sont aussi réveillés, c'est-à-dire si tu entends un bruit d'un coup, même des fois des odeurs, si tu sens le cramer, ça peut te réveiller. Donc du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui dort puisque le cerveau est actif, le corps est actif, les récepteurs d'alerte, on va dire, sont actifs, tout est actif. Donc qu'est-ce qui dort en fait? Qu'est-ce qui se repose? Qu'est-ce qui a besoin de se reposer puisque tout continue de fonctionner, y compris quand on dort? Parce que moi, la notion que j'ai du sommeil, c'est d'aller se reposer, c'est de, pff, tu sais, genre, d'éteindre des trucs. Mais en fait, je vois pas trop ce qui s'éteint. Sais pas si c'est clair. Et c'est quand même un truc que je fais quotidiennement, aller dormir, donc ce serait bien que je sache.
Zach, je me dis, on va peut-être couper les bottes pour ce soir. Est-ce que tu aurais peut-être une forme de, à moins qu'il y ait d'autres questions encore qui arrivent? Sinon, faire une petite conclusion pour ceux qui écouteraient le podcast plus tard. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent, ils ont peut-être des questions. Voilà, vas-y, Dani.
Ouais, juste pour Sun Tzu, en fait, malheureusement, ma mémoire fait un peu défaut, mais si tu retournes dans le podcast Rêve numéro 2 que j'avais fait, Je pense que ça va répondre en partie à ta question, mais désolé, je peux pas être plus précis que ça. Mais effectivement, il y avait eu ce thème-là qui a été abordé.
Ok, je vais checker.
Alors, pour répondre à Melk, j'aimerais finir juste par un message comme quoi, je sais pas ce que souvent les gens entendent dans les médias, etc. Mais j'ai envie de dire qu'au final, toutes les religions sont des religions qui parlent souvent de l'entente et qui parlent souvent de la bonne tolérance, etc. Et qu'au final, on est tous humains, donc on est tous pareils. Il est aussi important d'avoir beaucoup de raisonnement. Ne faites pas que de lire des textes, lisez, essayez d'interpréter, essayez de penser, essayez de réfléchir derrière, c'est extrêmement important. Encore une fois, par exemple, pour le Coran ne vous donnera pas réponse à tout. Un musulman qui vous dit ça aura mal compris son Coran. Le Coran vous aidera à raisonner, mais vous aidera pas, il ne vous répondra pas à toutes vos questions. Et c'est quelque chose que souvent, c'est une misconception, malheureusement, que beaucoup de musulmans ont. Et également, j'aimerais dire, dormez très très bien. Ne faites pas comme moi, à rester réveillé jusqu'à 1h38 du matin actuellement. Surtout quand on a le bac juste après. Et encore une fois, essayez d'être logique, essayez d'être rationnel. Toujours garder cette mentalité de je sais que, or je sais aussi, donc je peux affirmer. Message de tolérance, ouvrez-vous aux autres. C'est ce que disait justement Averroès Ibn Rushd dans son texte L'Islam et la raison, où il disait que c'était la haine justement qui ramenait la haine qui ramenait, enfin pardon, la peur, enfin le manque de connaissances qui ramenait à la peur, qui ramenait à la haine. Donc lisez les autres textes religieux. S'il y a des musulmans, lisez les autres textes religieux. S'il y a des chrétiens ou des juifs, lisez les autres textes religieux. S'il y a des non-croyants, des athées, bah lisez aussi. Ça peut vous intéresser, même si vous ne voulez pas forcément vous convertir. Lisez n'importe lequel. Il y a des leçons philosophiques à apprendre. Il y a des choses philosophiques derrière. Et parfois, c'est une leçon de vie. Encore une fois, l'histoire de Sourate Al-Hud, par exemple, du père qui demande à son fils de venir sur le bateau, c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui m'a touché personnellement, parce que du coup, ça parle de la relation entre un fils et son père. Et donc lisez, la lecture c'est important, lisez tout ce que vous trouvez, que ce soit des petits morceaux de journaux, etc. Et voilà.
Une bien belle conclusion. C'est sympa de citer Averroès. Ok, je vais couper les bottes. Nous, on peut continuer.